Accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Vous m'avez tout dit, monsieur. Vous demandez, vous ne me cachez rien.
Je ne vous cache.
Si j'apprends quelque chose, ça va m'énerver. Hein.
Bonjour, le parcours du combattant des immigrés qui veulent obtenir un permis de séjour. C'est l'objet d'un documentaire sorti cette semaine en France, et ce, alors que les députés examinent le dernier projet de loi sur l'immigration, le 29e en 43 ans. Ce texte veut simplifier la régularisation d'étrangers qui travaillent dans des métiers pour lesquels la France a du mal à recruter. Mais ce texte simplifie aussi les procédures d'expulsion et durcit les règles d'obtention d'un permis de séjour. Pour les avocats spécialisés en droit des étrangers, cette loi, si elle est adoptée, viendra en tout cas compliquer encore un peu plus leur travail déjà difficile au quotidien, comme le raconte ce documentaire « Maître » sorti mercredi et tourné à Strasbourg, Vilhoen Munoz-Boileau.
Donc vous avez fait une demande de statut de réfugié, ça n'a pas fonctionné puisque votre demande a été rejetée.
C'est dans le huis clos de leur cabinet, au milieu des piles de dossiers qui s'accumulent sur leur bureau, que l'on découvre Christine Mingus et Nora Boukhara, deux avocates strasbourgeoises. Deux personnalités diamétralement opposées, l'une s'illustre par son franc-parler, tandis que l'autre se montre plus calme et plus patiente, mais toutes deux sont aussi professionnelles que passionnées. Face à elles, des ressortissants étrangers qui oscillent entre incompréhension et désespoir et pour qui ces avocats tentent de trouver des solutions humaines face à la justice et parfois aussi face à l'injustice de certaines situations.
J'ai quitté ma maison, j'ai quitté tout là-bas. J'ai fait un bail ici, j'ai mon travail ici. On me prend, on me jette comme ça. Je ne suis pas un objet, moi. Je suis un être humain.
C'est dans l'espoir de changer le regard que la société porte sur ces ressortissants étrangers que les deux avocates ont accepté de faire une entorse au secret professionnel en laissant entrer une caméra dans leur cabinet, comme l'explique Christine Mingus.
Au départ, on n'était pas super emballés parce qu'on se disait que ça n'intéresserait pas grand monde, les avocats à l'écran ou même les étrangers à l'écran. Et puis, j'en ai discuté avec Nora et puis finalement... On s'est dit que ça pourrait permettre effectivement aux autres, à la société, de connaître un peu la manière dont on traite les étrangers en France, tout ce qu'ils vivent, et une machine administrative qui fait qu'ils sont suspendus, là, à des décisions qui viennent totalement bouleverser leur vie.
Je viens fou, là je suis en train de penser d'aller voir le préfet, là, et je vais me pendre là-bas devant lui, parce que là, il est en train de priver ma vie pour un papier.
À travers ce documentaire, on découvre un appareil judiciaire et une administration française intransigeante, voire même souvent hostile aux étrangers.
Pour venir me dire qu'elle a fait un gosse délibérément avec quelqu'un qui était français, c'est qu'on est dans une logique de suspicion quand on a affaire à des étrangers qui sont en demande de papier.
Nora Boukhara.
Par le passé, il y avait certains dossiers où on disait aux gens « allez-y tout seul, vous n'avez pas besoin d'avocat ». Aujourd'hui, je ne le dirai plus. Il n'y a plus vraiment de dossiers évidents. C'est-à-dire que même dans les cas où la loi prévoit un droit au séjour, les préfectures vont rentrer dans plein d'interstices et utiliser des pratiques complètement abusives pour pouvoir mettre en cause le droit au séjour. Ça va être la remise en cause de la paternité, mais vous ne contribuez pas assez à l'entretien et l'éducation de votre enfant, enfin, etc., etc. Donc, on travaille dans un contexte extrêmement hostile aux étrangers et l'administration voit de la fraude partout lorsqu'il y a un enjeu de titre de séjour.
Au-delà de la question centrale des titres de séjour, ce film aborde également d'autres aspects de leur vie comme l'intégration, le travail, le mariage, les enfants et les séparations.
Quand je pars pour voir les enfants, j'ai toujours la maman qui est devant moi et je ne vous cache pas que je tiens toujours à elle.
Ah bah alors, s'il y a de l'amour encore.
Oui.
Le réalisateur strasbourgeois Sven De Pau a ainsi souhaité montrer que ceux qu'on considère comme des étrangers sont avant tout des hommes et des femmes qui ont les mêmes aspirations que tout le monde, vivre, travailler, mais jamais le documentaire ne verse dans le pathos.
Si c'est juste pour voir un étranger sortir du cabinet avec un courrier du tribunal qui dit qu'il a une carte d'un an et puis qui part avec le sourire en se disant juste que ce soir il va dormir tranquille, c'est vraiment juste pour satisfaire les spectateurs dans la salle pour qu'ils sortent léger de la salle de cinéma. Mais finalement, l'étranger, le lendemain matin, ses galères, elles continuent.
Madame, vous croyez que ça me fait plaisir d'être traité de cette manière?
Quant à la fin, elle reste ouverte puisqu'on ne sait rien de ce qui advient des clients qui apparaissent dans le documentaire, un choix délibéré du réalisateur.
Le temps de la justice, malheureusement, c'est pas le temps du cinéma. notamment en plus quand les tribunaux sont bouchés et qu'il y a des embouteillages d'affaires et que ne serait-ce que traiter un cas, ça prend des années. Et même si j'essaie moi de créer une histoire cinématographique, il n'y a pas de fin.
Christine Mingus.
Oui, parce que quand ils obtiennent un titre de séjour, c'est d'un an, très souvent. Et l'année d'après, il faut renouveler. Et l'année d'après, il faut renouveler jusqu'à avoir une carte de résident de 10 ans, peut-être la nationalité française où ils seront enfin tranquilles et n'auront plus affaire à la préfecture. Mais tout peut changer d'une année à l'autre. Hein.
Malgré la gravité du sujet traité, l'absurdité de certaines situations et l'humour des deux protagonistes font sourire le spectateur plus d'une fois et apportent un peu de légèreté et font de Maître, troisième long métrage de Sven De Pau, un film documentaire touchant entre tragédie et comédie humaine.
Je dis pas que c'est pas possible, mais la
galère.
Faut-il rendre à l'Égypte le buste de Nefertiti, le joyau du nouveau musée de Berlin qui attire plus d'un million de visiteurs par an ? La polémique est relancée depuis qu'une élue berlinoise s'y est dite favorable en décembre dernier. L'idée de rendre la sculpture de cette reine du XIVe siècle divise en Allemagne, comme a pu le constater Delphine Darbollier.
Nous sommes au nouveau musée à Berlin, le Neues Museum. Cet immense bâtiment de style néoclassique abrite une vaste collection d'égyptologie, avec comme pièce maîtresse le fameux buste de Nefertiti. Cette reine d'Égypte a vécu au XIVe siècle avant notre ère. C'est aussi plus ou moins l'âge de ce buste de calcaire peint, haut de 47 cm, exposé seul dans une vaste pièce de forme octogonale avec un dôme et un puits de lumière. Une salle où il est prié d'être silencieux, comme pour ne pas déranger ce visage aux couleurs intenses. Ce touriste espagnol en est tout ému.
On est venu voir tout le musée, mais spécialement elle. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais elle est très belle. Oui, c'est une femme spectaculaire.
La magie de Nefertiti fonctionne aussi sur les plus petits, comme sur Johanna, 8 ans. Elle est venue au nouveau musée avec sa classe.
Nefertiti ? Je la trouve jolie et surtout je suis étonnée qu'elle ait été retrouvée dans cet état. Elle a dû passer des milliers d'années dans le sable. Elle a toujours ses couleurs et sa forme. Elle ne s'est pas cassée.
Si Nefertiti ne rend personne indifférent, son sort reste polémique. Depuis des années, un célèbre archéologue égyptien demande par voie de presse son retour. En décembre, une responsable politique berlinoise, Saraya Gomis, secrétaire d'État en charge de la diversité, s'est elle aussi dite en faveur d'un retour de Nefertiti dans son pays d'origine. Le débat a tout de suite été clos par sa hiérarchie politique. La Fondation pour le patrimoine culturel prussien gère les musées de Berlin et elle juge elle aussi cette demande hors sujet, comme nous l'explique son président Hermann Partzinger.
Il n'y a jamais eu de demande officielle de restitution de la part du gouvernement égyptien. J'ai rencontré de nombreux ambassadeurs d'Égypte et ils me disent tous qu'elle est la meilleure ambassadrice de la culture égyptienne ici à Berlin au Neues Museum. Nefertiti est une icône. Ce qui est déterminant pour nous, c'est que le partage des découvertes archéologiques a été légal. Il a suivi les lois de l'époque. Et dire que Nefertiti a été cachée et emportée dans une malle en secret est une contre-vérité. Nous avons donné toute la documentation à ce sujet aux autorités égyptiennes. Il n'y a eu ni vol, ni pillage encadré par l'armée. Il faut faire la distinction.
Le buste de Nefertiti a été découvert en 1913 par une équipe d'archéologues allemands. À l'époque, l'Égypte est sous occupation britannique. Les Allemands financent et réalisent des fouilles et en échange, ils en laissent la moitié à l'Égypte. C'est ainsi que Nefertiti sera envoyée à Berlin. Mais voilà, pour certains, la présence de ces contrats légaux ne signifie pas que ces acquisitions soient légitimes et moralement justes. L'historien Jürgen Zimmerer nous appelle de Hambourg où il dirige le centre de recherche sur l'héritage colonial. S'il admet que le buste de Nefertiti n'a pas été volé, il rappelle que l'Égypte de l'époque n'avait peut-être pas d'autre choix que de s'en séparer.
Je parlerai plutôt d'acquisition illégitime. On dit qu'il y a des contrats, des signatures, mais on sait qu'ils ont été contraints, ils ne sont pas justes. Et cela, le passé nous l'a appris avec le débat sur les biens spoliés sous le Troisième Reich. Souvent, il ne s'agit pas de vol, mais d'un contexte de pression qui pousse les gens et les gouvernements à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises autrement. La question se pose donc à la société allemande, voulons-nous en profiter ou pas ?
Si un retour de Nefertiti semble pour l'instant peu probable, l'Allemagne avance sur d'autres dossiers. La restitution des œuvres spoliées par les nazis, par exemple. Et l'année dernière, Berlin a restitué au Nigeria les fameux bronzes du Bénin, pillés par les Britanniques, puis acquis par l'Allemagne à la fin du XIXe siècle. Pour Jürgen Zimmerer, les choses peuvent donc encore bouger pour Nefertiti.
Récemment encore, les bronzes du Bénin n'étaient pas vus comme obtenus de manière illégitime. Il y a donc une leçon à tirer. Les responsables de musées et une partie des politiques ne bougent que sous la pression de la société civile.
En attendant, l'Allemagne vient de proposer à plusieurs pays africains de récupérer des milliers de restes humains, os, crânes, obtenus il y a plus d'un siècle de manière illégale et à visée soi-disant scientifique.
Si tu aimes les hommes, les problèmes, les échecs, prends le risque et viens vite, je t'invite.
Et en Grèce, ce sont les sculptures du Parthénon et de l'Acropole d'Athènes qui empoisonnent toujours les relations entre la Grèce et le Royaume-Uni. Exposées depuis près de 200 ans au British Museum, en décembre, un quotidien grec avait fait renaître l'espoir d'un possible retour de ces marbres. Espoir finalement douché en janvier par la secrétaire d'État britannique à la culture, Michel Donnellan, pour qui ces sculptures appartiennent au Royaume-Uni. Reportage à Athènes de Joël Brunner.
The Parthenon marbles are... our pride. They are our identity.
Les marbres du Parthénon sont notre fierté, ils sont notre identité. Ces mots sont ceux de Mélina Mercouri, actrice et chanteuse grecque, devenue ministre de la Culture dans les années 80. C'est elle qui a introduit dans le débat public et médiatique la demande du retour en Grèce des sculptures et statues exposées depuis le 19e siècle au British Museum de Londres. Depuis, cette requête est devenue un refrain politique récurrent. À l'image des mots prononcés fin janvier au musée de l'Acropole par Kostas Bakoyanis, le maire d'Athènes, face à une délégation d'élus des Balkans et enregistrée par l'un des participants.
Là, derrière nous, se dresse le Parthénon. Fier, mais incomplet. Un Parthénon blessé est un manquement au devoir universel qui consiste à sauvegarder l'intégrité du patrimoine culturel mondial. La réunification des marbres du Parthénon n'est pas une pure affaire gréco-britannique. Cela ne concerne pas simplement les relations entre États. C'est un enjeu universel majeur qui traduit notre vision collective du monde moderne et de l'histoire, nos valeurs communes et notre façon de coopérer.
Au cœur de la capitale grecque, la colline de l'Acropole abrite les vestiges de plusieurs temples sacrés de l'Antiquité, dédiés en particulier à la déesse Athéna. Le Parthénon, situé au sommet, est de loin le plus célèbre d'entre eux. Le monument est alors orné de sculptures qui représentent le corps humain avec un réalisme inédit, à l'image de la longue frise des Panathénées qui exhibe la vie de la cité de l'époque et la cohabitation dans la pierre des hommes et des dieux. Le retour de ces marbres du Parthénon, de Londres à Athènes, le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, candidat à sa réélection au printemps, n'hésite pas à en faire un argument de campagne, comme ici, mi-janvier, lors d'une conversation devant les caméras avec la présidente Katerina Sakellaropoulou.
Je ne m'attendais pas à des résultats immédiats, mais il me semble que nous avons effectué des démarches très systématiques en ce sens. Si les gens nous font à nouveau confiance, je crois que nous pourrons atteindre cet objectif, non seulement pour nous, les Grecs, mais aussi pour les visiteurs, de voir cette pièce unique du patrimoine mondial dans son espace naturel, le musée de l'Acropole, à l'ombre du rocher sacré.
Alors que la Grèce n'est pas encore l'État grec moderne et que la région se trouve sous la domination de l'Empire ottoman, le diplomate britannique Lord Elgin, sous couvert d'études, en profite. Dans sa trilogie de référence, La Grèce et les Balkans, Olivier Delorme se fait le porte-voix des Grecs et de leurs frustrations. Lord Elgin reste l'exemple emblématique de l'ère du vandalisme et des prédations archéologiques, écrit-il. Au lieu de moulages et de quelques pierres, Elgin a fait arracher une quinzaine de sculptures dites métopes, l'essentiel de la frise des Panathénées et des morceaux de deux autres temples. Tout ceci, écrit-il, en raison de l'incurie de l'administration turque locale. Olivier Delorme conclut « Le droit et le bon sens exigeraient qu'un pareil ensemble, aussi indissociable d'un des chefs-d'œuvre majeurs de l'histoire de l'humanité, soit enfin restitué et présenté sur les lieux où il a été conçu et exécuté. » Un avis que partage peu ou prou Catherine Aubert-Rancurel, archéologue, qui a notamment travaillé sur plusieurs chantiers grecs.
L'autre point, selon moi, qui pose un très gros problème par rapport à toutes les œuvres, mettons, qui ont été trouvées en Grèce et qui se trouvent en France, en Angleterre ou dans d'autres pays, en Égypte, ailleurs, etc. Bon, c'est que ces éléments-là appartiennent à des monuments, ce ne sont pas des œuvres en soi. Ces monuments ont été en quelque sorte démembrés. On a privé l'Érechtheion notamment d'une cariatide, on a privé le Parthénon de plusieurs éléments de la frise. Donc il est naturel que ces pièces reviennent à leur monument d'origine.
Londres a longtemps soutenu qu'Athènes n'avait pas les moyens de conserver correctement les sculptures exposées de nos jours au British Museum. Or, l'ouverture d'un nouveau musée de l'Acropole en 2009 a battu cet argument en brèche. Londres insiste donc à présent davantage sur la légalité de l'achat, il y a 200 ans, du British Museum à Lord Elgin. Un lord que les Grecs considèrent eux comme un voleur. Ceux-ci entendent donc toujours qu'on leur restitue ces marbres du 5e siècle avant notre ère, des marbres dans lesquels ils voient également gravée une part de leur identité nationale.
Les néonicotinoïdes, ce mot barbare pour désigner un pesticide particulièrement dangereux pour la biodiversité, eh bien ça y est, la France n'en utilisera plus. Bruxelles a eu le dernier mot il y a 15 jours avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça, Clémence Pénard, c'est une bonne nouvelle.
En fait, cet insecticide s'attaque au système nerveux des insectes et touche particulièrement les abeilles. Son épandage est donc très néfaste pour la biodiversité. À tel point que techniquement, son utilisation est complètement interdite au sein de l'Union européenne depuis 2018. Sauf que jusqu'ici, certains États, dont la France, la Roumanie ou la Finlande, continuaient à l'utiliser en contournant les règles grâce à des dérogations. À l'échelle de l'Union européenne, en 4 ans, il y a eu 236 dérogations pour certains pesticides, dont la moitié pour utiliser ces fameux néonicotinoïdes, pour vous dire. Mais aujourd'hui, les dérogations, c'est fini. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché, l'Europe fait donc plier la France. Bon, forcément, c'est un coup de massue pour les betteraviers. La France est le premier producteur européen de sucre de betterave et le deuxième mondial derrière la Russie. Alors, pour tenter de rassurer la filière, le ministre de l'Agriculture a prévu un fonds d'indemnisation en cas de perte de récolte et il faudra évidemment trouver des alternatives concrètes et chercher peut-être du côté de l'Italie, de Malte ou encore de la Bulgarie qui ont, eux, prouvé qu'il était possible de se passer de ces produits néfastes pour l'environnement.
Musique, c'est l'heure. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Au menu du hip-hop aujourd'hui, Vincent.
Ou presque. En une petite dizaine d'années, le nom de Yellow Straps est devenu familier aux oreilles de qui s'intéresse à la scène hip-hop bruxelloise. Sous ce nom, les frères Alban et Yvan Murenzi ont régulièrement collaboré avec Romeo Elvis ou le producteur Le Motel. Ils ont aussi publié quelques maxis et un disque qui regroupait des morceaux enregistrés pendant le confinement de 2020. Mais étonnamment, Yellow Straps n'avait jamais sorti d'album à proprement parler, c'est chose faite aujourd'hui avec Tentacle, entièrement conçu par Yvan Murenzi, désormais seul aux commandes sans son frère, pour affiner un mélange ultra moderne de néo-soul et de R&B, 13 morceaux traversés par d'incessants questionnements amoureux et honorés de la présence de quelques invités comme ici le pianiste superstar Sofiane Pamart.
Yes, I love you. Ça devient stressant que quand on se dit tout. Avoue qu'on s'aime, nos peines, qu'on se prime tous. À chaque fois, c'est bien.
On se quitte avec cet extrait de Blue des Yellow Straps. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure en podcast. Excellent week-end, à lundi.